au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie et tout spécialement cette émission Au fil des pages. J'ai le plaisir de recevoir Denis Bachelot, qui est journaliste mais surtout observateur des médias. C'est un journaliste de formation économique, mais qui a beaucoup élargi son regard. Il est auteur d'essais sur notre société. Il invite à une réflexion sur la société et notamment sur les images qu'elle véhicule, puisque les images dans les médias, c'est très fréquent. Bonjour Denis Bachelot.
Bonjour Hélène Renard.
Votre essai s'intitule « L'islam, le sexe et nous » et il est paru aux éditions Buchet-Chastel dans la collection « Les essais ». Alors disons-le d'emblée, c'est un essai à rebours du politiquement correct, c'est un sujet délicat, un sujet quasiment tabou, et qui pourtant, non seulement revient sans cesse dans l'actualité, mais est totalement sous-jacent au problème de la société actuelle, de la nôtre en tout cas, c'est la question de la condition féminine dans les pays d'Occident et dans les pays musulmans, plus précisément sur les questions des relations hommes-femmes, et la question hypersensible de la sexualité et de ses pratiques et de ses représentations. Alors, si vous voulez bien, on va avancer doucement dans votre livre et marcher à petits pas prudents. Première question sur donc, les images autour de la représentation des femmes. L'Occident, donc, dont nous faisons partie, a-t-il pris conscience et s'interroge-t-il suffisamment sur les représentations de la femme qu'il diffuse à travers les médias, c'est-à-dire les films, les vidéos, les jeux vidéo, les clips, la musique, l'Internet, la publicité? Quelle image diffusons-nous de la femme?
Alors, je crois que vous avez très bien résumé le livre, d'abord. Je crois que l'Occident s'interroge et se regarde, peut-être même de manière nombriliste, dans ses représentations, mais par rapport à lui-même, sans forcément s'interroger de l'impact de ses représentations sur l'autre, c'est-à-dire celui qui ne vit pas dans le système mental de la culture occidentale. Or, c'est le premier constat du livre sur lequel je démarre. On se rend compte que depuis un certain nombre d'années, de décennies, mais tout particulièrement depuis la décennie 80, la culture de masse occidentale est une culture qui évolue, je dirais presque principalement sur deux pôles, une extrême féminisation des représentations d'une part, et de l'autre, une extrême sexualisation de ces représentations. Ça va bien au-delà de la simple pornographie. C'est-à-dire que le corps féminin sert à tout. Et le moteur du fonctionnement, je dirais presque, je caricature un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire, du fonctionnement de la société, dans sa dimension marchande et dans sa dimension de représentation. Ce fonctionnement correspond à notre culture. Alors on peut discuter de savoir si c'est bien, si c'est mal, jusqu'où on doit ou pas aller, c'est une chose. Ce phénomène s'est imposé, en tous les cas, comme un facteur, une culture de masse, et correspond à notre fonctionnement, correspond à des évolutions profondes de notre société, ce qui fait que globalement, on peut l'accepter. Même si les gens ne sont pas d'accord, ils cohabitent avec cette culture de la représentation sexuelle sans se perturber ou sans s'offenser, alors que d'autres civilisations ne vont pas du tout le percevoir comme nous. Alors ce qui est clair, c'est que quand on prend un regard mondialisé, et je me suis vraiment intéressé à une culture mondialisée des représentations, on voit qu'en Asie, globalement hors Asie musulmane, ces représentations, au Japon notamment, qui lui-même est devenu un fer de lance de ce type de représentation, aujourd'hui de plus en plus en Chine, et dans le monde sino-confucéen, ces représentations globalement passent sans trop de problèmes. Voilà. Alors que le monde musulman, visiblement,
est choqué
à un problème avec la culture occidentale qui, je pense, pour l'essentiel, repose aujourd'hui dans le monde de la modernité mondialisée sur un rejet, un refus de ces représentations. Voilà. Je pense que là, il y a un véritable conflit de civilisation qui n'a rien à voir avec la notion de choc de civilisation de Clinton et que l'Occident ne s'est pas vraiment posé la question et n'a pas entamé la réflexion de savoir quel est l'impact sur les autres de mes représentations.
Alors ça, c'est un premier point, mais on observe un double refus à propos de la représentation féminine, disons. Il y a le refus donc de l'Occident qui refuse, au fond, l'image de la femme soumise, privée d'expression publique, donc celle qui s'observe
de représentation essence,
de
publique,
représentation
pas avoir
publique.
Un corps et un
et
visage
puis,
dans l'espace public.
Et puis le monde,
public.
Disons, héritier de l'islam, c'est-à-dire le monde musulman, qui lui refuse la manière dont l'Occident présente la condition féminine. Alors là, il y a un double refus. Est-ce que c'est véritablement une totale incompréhension pour vous ?
Votre question est complexe. Dans la dimension de la conflictualité, oui, c'est un problème central. Maintenant, je ne peux pas dire non plus que tous les musulmans sont forcément dans cet état d'esprit. Je juge un mouvement global.
Oui, et, puis on ne parle pas des fondamentalistes. On parle d'un monde musulman.
Oui, oui, mais les fondamentalistes sont le fer de lance de ce refus, mais qui va au-delà. Parce que quand on se balade notamment au Maghreb, ou quand on regarde, parce que j'englobe dans cette question les populations musulmanes en Europe et en Occident, comme les pays musulmans eux-mêmes. Quand on regarde ce qui se passe, quand on parle avec les gens, dans le rapport personnel, on voit que beaucoup, en fait, disent que cette culture les gêne, ou qu'ils la rejettent, ou qu'ils la méprisent, même si éventuellement ils en tirent profit d'une manière ou d'une autre. Et que donc, je pense qu'effectivement, il y a une véritable question. Est-ce qu'elle est absolument insurmontable ? Sur la longue durée, j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui,
elle est source de conflit.
Elle est source de conflit et elle est la principale question qui nous oppose, oui.
Alors, je voudrais vous citer, pour donner un peu le ton de votre livre, « Notre culte du corps libre », c'est donc le culte occidental, fondé sur une sexualité affranchie, soi-disant, s'opposerait donc aux, entre guillemets, revendications de pudeur, dignité et respect entendues dans tous les discours des musulmans et pas seulement des fondamentalistes.
Pas seulement, bien sûr, oui.
C'est autour donc de ces questions des rapports hommes-femmes, parce que ce n'est pas seulement la sexualité, mais c'est la manière dont on positionne l'homme et la femme l'un par rapport à l'autre, que s'affrontent deux mondes, deux cultures, et vous avez l'air de les juger inconciliables. En tout cas, vous dites qu'on va, en proliférant ces images d'une femme soi-disant libérée occidentale, on va vers une détestation grandissante des valeurs de l'Occident.
Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a comme un conflit mimétique, pour reprendre les termes de René Girard, mais un conflit mimétique à l'envers, selon la doctrine.
Oui, vous n'êtes pas d'accord avec notre académicien, d'ailleurs.
Non, je ne suis pas d'accord, parce que lui dit que les musulmans n'ont qu'une envie, c'est de nous ressembler et d'imiter notre mode de consommation. Et moi, je distingue radicalement les modes de consommation et les structures mentales. Et donc, je ne pense pas que pour eux, ça soit un idéal de nous ressembler. Je ne le pense pas du tout. Je pense qu'ils ont une image, je parle encore en globalité, après on peut nuancer à l'infini suivant les cas particuliers. Je pense qu'ils ont une image globalement négative des représentations de la sexualité en Occident, que pour eux, leur culture repose très largement, sinon essentiellement, sur cette notion de dignité, de respect, d'honneur, qui fait que le corps de la femme ne doit pas se montrer et que l'honneur de l'homme et sa dignité en dépend. Et donc, je pense qu'ils ont plutôt une vision négative, voire méprisante, par rapport à ce que nous représentons massivement dans notre culture. Je parle bien sûr de la culture qui est véhiculée par les outils de communication de masse. Bon, bien évidemment, la télé, les clips, Internet, enfin bon, la pub, tous ces outils-là. Donc je pense que plus ce conflit mimétique inversé, plus nous en faisons dans un sens, plus ils en font dans un autre. Et qu'il y a une interaction au niveau mondial, entre la culture que nous projetons à travers le monde et la réaction puritaine et identitaire à la fois du monde musulman.
Avec Denis Bachelot, nous parlons de son essai « L'islam, le sexe et nous » paru chez Buchet-Chastel. Je vous propose de marquer une très courte pause et de nous retrouver dans un instant.
Découvrez un personnage original de l'histoire de la gastronomie, Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière. Célèbre pour son humour noir et ses fastes culinaires, il inventa les premiers guides gastronomiques. Retrouvez le docteur Jean Vito, vous détaillez la vie tumultueuse de Grimaud de la Reynière sur le site de Canal Academy, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Nous retrouvons Denis Bachelot. Alors, vous êtes un spécialiste des médias et donc des véhicules, des images. Et dans votre livre, vous proposez une longue réflexion sur l'idéologie du showbiz. Alors, expliquez-vous, et quel est le rapport entre cette idéologie véhiculée par le showbiz et la difficulté ambiguïté entre l'Occident et le monde musulman à propos de la femme ou de la condition féminine ou des rapports hommes-femmes.
Si je puis me permettre, très habile transition, puisque je venais de parler des médias de masse. Et ces médias de masse, pour moi, la part essentielle vient de ce qu'on peut appeler, de manière un peu triviale et très élargie, le showbiz. C'est-à-dire tous les gens qui maîtrisent, c'est pas forcément que le monde de la chanson au sens traditionnel, c'est le monde de tous les gens qui maîtrisent les représentations de masse dans les outils de communication de masse de la société moderne. Voilà. Donc je pense qu'il y a une... Si on analyse les images, ce que je fais, je l'ai fait dans un précédent ouvrage d'ailleurs qui s'appelle « Les maîtres à représenter », puisque je travaille, le fil conducteur de tout ça, c'est les représentations, hein, les représentations de masse et les systèmes idéologiques qui les sous-tendent. Donc quand on observe toutes ces représentations, que ce soit les photos dans les magazines, la pub, Internet, les clips, le cinéma, émissions de télé grand public, on se rend compte que tout ce qu'on peut appeler showbiz de manière un peu générale, monde du spectacle, hein, l'entertainment comme on dit en anglais, on se rend compte qu'il y a une idéologie, qu'il y a des messages plus ou moins explicites qui sont véhiculés. Et que si on veut faire simple, là encore, mais sur le livre, je m'attache à analyser tout particulièrement cet aspect-là, il y a deux éléments que je note et que je trouve fondamentaux. C'est d'une part, oui, ce qu'on peut appeler la féminisation des représentations, avec une sexualisation extrême, premièrement. Et deuxièmement, l'autre donnée qui découle en partie de la première, c'est l'exaltation, je dirais presque, d'une culture narcissique qui est fondée sur la contemplation et l'autocontemplation surtout du corps.
Alors ça, j'avais noté en effet de vous interroger sur cette quête narcissique qui
voilà.
Fonde.
Et c'est une idéologie.
Et
parce
vous
que,
dites, elle
oui.
Fonde l'individualisme européen.
Elle fonde l'occidental.
Et contemporain,
oui.
En tout cas.
Contemporain, oui, oui.
Et donc, nous sommes tous dans ce regard sur nous-mêmes, très nombriliste, très narcissique.
Et qui passe essentiellement, c'est ça la nouveauté, par le corps. Parce qu'il peut y avoir différentes formes de narcissisme. Mais là, c'est un narcissisme physique. Et évidemment, qui met en avant beaucoup plus les femmes, c'est évident. Puisqu'elles ont, si je puis me permettre, elles ont physiquement beaucoup plus d'intérêt que les hommes.
Merci. Alors ouais. Justement, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans un concret et vous donner un exemple extrêmement intéressant dans votre livre à propos des relations garçons et filles. C'est-à-dire que les filles sont dans la séduction. Alors, par rapport aux mass-médias, justement, comment le sont-elles? Elles sont dans la séduction, mais plus pour séduire les garçons. C'est ça qui est très bizarre. Alors, expliquez-vous là-dessus.
Oui, ça c'est le détour. Mais effectivement, alors, la culture narcissique, la culture du corps et cette culture largement féminisée posent certains problèmes, notamment la place des garçons.
Oui.
Puisqu'on regarde, si on regarde les vidéoclips, par exemple, on voit que massivement, c'est des vidéoclips qui représentent des femmes, hein, des filles dans des postures très sexy, hein, la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que deviennent les garçons dans ce monde-là? D'abord, ils sont de plus en plus spectateurs. Et on voit, alors là, c'est intéressant encore, on retrouve l'idéologie, le rapport entre l'idéologie et la réalité. On voit que les garçons n'ont pas le même monde, finalement, que celui des filles. Ils sont très captés par les jeux vidéo, qui sont alors à l'opposé souvent des jeux de violence ou de compétition sportive.
De domination, en tout cas.
Physique,
voilà, oui.
Et de domination, des jeux de guerre, des jeux de combat, des affrontements sportifs. Et que les filles, elles, quand on regarde les outils de représentation qui leur sont adressés, c'est essentiellement, effectivement, la séduction, la coquetterie, la beauté. Bon. Et là, on est au cœur d'un paradoxe. C'est que plus la société contemporaine affirme l'absolue égalité et identité surtout, parce que l'égalité, c'est un terme juridique, il faut le souhaiter. L'identité, c'est autre chose. Plus elle affirme l'identité des sexes, plus la culture de masse dit le contraire. Et ce qui est frappant, c'est que sans contrainte, par le simple jeu du marché, les jeunes filles et les enfants, puisque malheureusement, enfin ça, par contre, je le regrette vivement, c'est qu'il y a sexualisation des représentations, prend les filles maintenant à la sortie de la petite enfance, à 5-6 ans, on commence à les...
Il y avait un marché, là, vous dénoncez d'ailleurs cette culture marchande.
Il y a une marchandisation de la petite fille, qui est quelque chose d'extrêmement malsain, en fait, il faut quand même le dire. Donc, les filles évoluent de plus en plus dans cet univers de représentation de sexualité, de séduction, et les garçons dans un univers de représentation brutale, et que ça contredit effectivement le discours dominant qui ne sait pas d'ailleurs comment gérer cette contradiction.
Mais en même temps, ça repositionne donc de manière extrêmement, j'allais dire, archaïque les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que les garçons sont dominateurs par rapport aux femmes qui devraient être soumises. Et donc, on retrouve des schémas qui vont se reproduire, évidemment.
Je ne sais pas, parce que les schémas changent. Enfin, moi, c'est ce que je dis en tous les cas. Alors, on peut en prêt s'en féliciter ou pas, mais vous parliez effectivement du narcissisme et de la séduction. C'est que pour moi, il y a quelque chose de différent. Il y a une rupture quand même qui me paraît assez fondamentale par rapport au temps précédent. Quand je dis le temps précédent, c'est il y a encore quelques décennies. Je ne remonte pas au Moyen-Âge. C'est que dans les représentations de masse, les représentations féminines sexualisées, et je pense notamment évidemment aux grands archétypes qu'ont été Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot en leur temps, donc je parle des temps modernes, étaient tournées vers une séduction sexuelle vers l'homme. C'est-à-dire que la femme était encore présentée pour l'essentiel comme un objet de désir au regard masculin. Alors que maintenant, dans la culture de masse qu'on est en train de vivre, dans son aspect de représentation et de fonctionnement mercantile, c'est un marché qui s'adresse d'abord, la représentation sexualisée du corps de la femme, érotisée du corps de la femme, s'adresse d'abord aux petites filles, aux jeunes femmes, et probablement au-delà aussi. Donc, on joue beaucoup plus...
C'est là que c'est nombriliste, c'est là
oui,
que c'est individualiste.
Oui, on joue sur l'identification féminin. Beaucoup plus que sur la sollicitation du désir masculin qui, lui, de plus en plus d'ailleurs, du coup, est déporté dans le domaine de la pornographie.
Donc, évidemment, on voit tous ces problèmes qui sont abordés dans votre ouvrage. Votre livre, ça se veut à la fois donc une réflexion, bien sûr, mais aussi un cri d'alarme, une prise de conscience.
Oui, bien sûr. La question n'est pas de revenir à un ordre, le fameux spectre de l'ordre moral.
Non, il n'y a pas de morale. Dans...
ou la hantise du puritanisme. Ce n'est pas du tout ce que je dis, d'ailleurs. Je l'ai dit au départ qu'on est dans une évolution très profonde de nos sociétés, que contrairement à ce qu'on dit aussi, le corps et sa représentation et la réflexion sur le corps avec tous les jeux que ça représente, enfin de la pornographie la plus grossière aux représentations les plus sophistiquées, fait partie de notre culture. Et que c'est donc quelque chose qui a un fil identitaire profond. Et que la confrontation du coup, alors là je parle de l'islam aussi chez nous, avec le monde musulman, est-ce que c'est ce qu'on a à proposer comme modèle culturel aux millions de musulmans qui vivent maintenant en Europe ?
C'est une vraie question.
Voilà, oui.
Que vous avez voulu poser.
Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quand même une culture qu'ils perçoivent massivement, qu'ils reçoivent massivement et qui pour eux, en grande partie, peut-être, il faudrait affiner les études. On manque d'études là-dessus, j'en cite quelques-unes. Mais il y a un déficit énorme de travail de terrain, de travail quantitatif. Est-ce que c'est ça l'image de l'Occident qu'on propose à ces millions de gens qui sont là et qui sont, on le voit bien tous les jours d'ailleurs, en situation de difficulté par rapport à notre société. Et quand on regarde comment s'expriment ces difficultés, alors là il y a aussi un immense débat politique entre ce que j'appelle la théorie sociale ou la théorie culturelle, on se rend compte quand même qu'à chaque fois qu'il y a polarisation et rejet net d'un côté et de l'autre, c'est quand même sur des sujets qui renvoie aux représentations sexuelles et à l'enjeu de la condition féminine. Enfin, le débat aujourd'hui sur la burqa est quand même absolument révélateur. Qu'est-ce qui fait bouger les gens ? Qu'est-ce qui suscite les réactions les plus passionnelles ? C'est ce sujet-là.
Absolument.
On sent qu'on est au cœur de quelque chose de fondamental qui n'est pas vraiment explicité. Et ce que je me propose, je dirais tout modestement dans ce livre, c'est de l'expliciter.
Oui, vous le dites d'ailleurs très bien, ouais. C'est la page 196 du livre, donc on est presque à la fin du livre. Seule la formulation du refoulé, la mise en évidence des pulsions de peur, de haine, de destruction et de possession peuvent permettre de cerner la dynamique de la violence et peut-être de la désamorcer quelque peu. La question sexuelle, en dépit de sa charge émotionnelle, doit être raisonnablement placée au cœur des débats.
Oui, tout à fait. Je le pense profondément et je vous remercie d'avoir cité cette phrase. Je parle de pulsions, notamment j'utilise quand même beaucoup une approche psychanalytique.
Un vocabulaire et une approche psychanalytique,
largement
en effet.
Freudienne.
Oui, oui.
Bon. Et que cette question-là, qui est pour moi la
très
plus sensible et la plus
exprimée,
et tout de suite, on peut arriver, effectivement, parce que je le dis d'ailleurs, le discours sexuel, c'est celui qui permet le plus les fantasmes et les délires et les obscénités, enfin, et les violences. Enfin, bon. Mais en même temps, est-ce qu'il faut dire on n'en parle pas ? Est-ce que c'est pas ça la première cause de violence ? Ou est-ce que c'est de dire on en parle, avec les difficultés que ça pose ? On essaye de les maîtriser parce qu'il est clair, et je le dis, merci de l'avoir cité sans ambiguïté aucune, que le but, c'est évidemment pas de déchaîner les violences, mais de les contrôler, de les canaliser, et bien sûr, de les faire autant que possible disparaître. Il n'y a aucune envie de...
Non, c'est pas fait pour attiser les conflits, bien sûr.
De guerre sexuelle dans mon propos, au contraire.
Je voudrais, avant qu'on se quitte, Denis Bachelot, signaler aussi tout le chapitre 4 de votre livre, parce qu'il établit justement cette distinction entre racisme et malaise face à une immigration mal contrôlée sur ces sujets-là, et donc mal avertie aussi de ces sujets. Donc je crois que votre livre peut aider à une réflexion en profondeur, et donc je me permets de le recommander sur Canal Académie. Denis Bachelot, L'Islam, le sexe et nous, et c'est paru aux éditions Buchet-Chastel. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Merci à vous.